Qui dit mieux, qui dit mieux? Allons, allons, messieurs, qui dit mieux? Qu'est-ce que l'homme a fait de mieux? L'inventer la parole, les gros mots, les injures, les discours, le protocole, les je te promets, je te le jure. L'inventer le tam-tam, le dessin, puis la peinture, les rues bruyantes et le tram, les graffitis sur les murs. Il a inventé l'école, le calcul, l'écriture, le tableau et le pot de colle, les pattes de mouche, les ratures. Ça a donné les journaux, le bottin de téléphone, les potins, les ragots, la batterie, le saxophone, la radio, la télé, le foot et la politique, la pub et l'ukulélé, les emballages en plastique. Qui dit mieux? Qui dit mieux, messieurs, messieurs? Vous dites, monsieur prétentieux, monsieur, restons sérieux, qu'est-ce que l'homme a fait de mieux? L'a inventé l'argent, le chèque et le portefeuille, les banquiers, les marchands, les je peux pas te le faire à l'œil. L'a inventé le secret, le coffret, la cachette, le couteau à cran d'arrêt et le doigt sur la gâchette. Il a inventé la clé, le paillasson, la serrure, le tour de la propriété, le chien de garde, les clôtures. Ça n'a rien donné sinon que les étrangers, les frontières, les képis, les canons, les défilés militaires, la Croix-Rouge, les diplomates, les brancards, les films de guerre, le parachute, le jus de tomate, le cornet de bif, l'embure, 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 guerre. Qui dit mieux? Allons messieurs, qui dit mieux? Merveilleux, mais encore audacieux, oui, prodigieux. Excusez, j'ai une bouloire sur le feu.
Et Toto y a dit ton papa, les pra papa. Et Toto y a dit ta maman, les pra maman. Et Toto y a dit ton pépé, les pra pépé. Et Toto y a dit ta mémé, yépa yépa. Et Toto y a dit ton tonton, yépa yépa. Et Toto y a dit ta tata, yépa yépa. S'il n'y a pas ni ton papa, ni ta tata, etc. À quel bonheur je viens voir ta sœur. Oui, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus si cela et la plus, la plus et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, là, tiens la voilà. Salut, je ne t'ai pas apporté de fleurs, ça ne m'étonne pas, mais me voilà avec mon cœur, ça ne m'étonne pas, et aussi avec mon scooter, ça ne m'étonne pas, tous deux ne battent que pour toi. Tip-tap, tip-tap, laisse-moi te prendre dans mes bras, bas les pattes, laisse-moi te faire un bisou là, bas les pattes, oh la vilaine, si c'est comme ça, je vais voir ta bonne, la belle Irma, et je l'amène au cinéma, na, car c'est bien plus belle, la plus sensationnelle, la plus si cela est la plus et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, là, tiens la voilà. Salut Irma, tu viens au cinéma? Non.
Je suis parti ce matin même, encore sous de la nuit. Mépris d'un écœurement suprême, crachant mes adieux à Paris. Et me voilà, ma bonne femme, oh oui, foutu comme quatre sous. Mon linge est sale, aussi mon âme. Et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge goûte à maintes et maintes fois le vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme, plus grise des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise, gris, rose. Et puis lila. Ma pauvre mère est en lessive. Maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Au fond du cuvier où l'on...
La rage. La rage. rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins casser les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes toutes les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizis tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'un âne avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, nous sommes de retour après 2 mois d'absence. J'espère que vous ne vous avons manqué. François, bonjour.
Bonjour Mariama, bonjour Yann.
Bonjour.
Alors Yann, chanteur très engagé, un grand chanteur très engagé.
Merci.
Yann Alexander.
Oui.
Parce que, pourquoi Yann Alexander aujourd'hui? Parce que nous allons parler du Gabon.
Oui. D'ailleurs, je vais vous dire d'abord à tout le monde, puisqu'on est plusieurs, je vais dire Mbolo Wani. Alors quand c'est une personne seule, on dit Mbolo. Mm-hmm. Et quand il y a plusieurs personnes autour, on dit Mbolo Wani. C'est en miéné, qui est l'un des 40 dialectes du Gabon. Voilà. En langue en fait, hein, parce que dialecte, c'est pas forcément très... c'est plutôt dépréciatif, on va dire langue du Gabon. Au même titre que le Fang, le Nzebi, le Pounou. Voilà, il y a tout un tas de langues comme ça.
Bon. Alors nous allons parler du nouveau Gabon.
Oui. Ben oui. Oui, c'est fou. Depuis le 30 août, c'est étrange.
Les événements se précipitent.
Complètement.
Complètement. Mais avant cela, je voudrais que tu précises aux auditeurs qui t'ont écouté pendant les deux émissions que
oui, comme nous avions fait sur du Libertaire, oui.
Voilà. Tu as une actualité qui est le 13 septembre.
Oui, entre autres. Bon, il y a ce fameux spectacle qui tourne depuis 2019, qui s'appelle Du Gabon à la Russie, qui est une comédie musicale, avec la chanteuse russe Veronika Bulitcheva. Et nous allons là refaire des dates, le 9 septembre à Groflier, dans le Nord-Pas-de-Calais, le 13 septembre à Paris, dans un restaurant gabonais qui s'appelle le Moudiba, à Paris 17. Je précise d'ailleurs que c'est le jour de mon anniversaire, mais chut, voilà. Et le 22 septembre à Strasbourg, je suis malin, le 22 septembre à Strasbourg, le 14 octobre à Verneuil-sur-Avre, au Délices du Gabon, le 19 octobre à Saint-Étienne, le 20 octobre à Die, le 10 novembre à Clamart, le 12 novembre à Clamart, toujours l'espace Saint-Jean, le 18 novembre à Hyères, à la Pépinière, et nous attendons des réponses pour la Suisse et Marseille. Voilà un peu
parfait.
Les nouvelles.
Alors, donc,
comment
le canard...
Comment aller le voir, à Die?
À Die?
Elle est dans le coin.
Eh bien, qu'elle vienne, volontiers, au Café Labarta.
D'accord. Bon. Alors, le 30 août, le canard enchaîné, toujours en retard, cette fois-ci, encore plus que d'habitude, donne dans la rubrique Prise de bec un super portrait de Ali Bongo au Gabonais absent. Alors, excellent. Disons ceci, visant un troisième mandat, il a coupé Internet, instauré le couvre-feu et suspendu les médias étrangers avant même la fin du scrutin samedi dernier. Donc, Ali Bongo, c'est le symptôme de quoi, pour toi ?
C'est pas que pour moi, là je pense que je parle aussi, ce que je vais dire là représente le point de vue de beaucoup de Gabonais, je pense qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent en ce moment.
Oui.
C'est le symptôme d'une déliquescence totale.
Bien.
C'est le symptôme d'une dégradation absolue. Les gens, on le sait peu maintenant, mais le Gabon a été un pays plus riche que le Portugal et que la Grèce dans les années 70 en termes de revenus par habitant.
Oui.
C'était un pays qui était extrêmement différent de l'ensemble du reste des pays d'Afrique francophone.
Exact. Les gens voulaient venir au Gabon.
Les gens venaient au Gabon.
Ils ne venaient pas en France.
Non. Et quand les Gabonais venaient en France, c'était des expatriés. C'était
voilà.
Pas des immigrés.
Tout à fait.
Et bon, ça, ce genre de choses, c'est encore un peu resté. Mais au niveau national, au niveau du pays, les conditions se sont vraiment dégradées. Mais je dirais aussi que, une certaine opposition s'est réveillée en 2016 suite à lorsqu'il a voulu faire son coup d'État institutionnel et qu'il a réussi à garder le pouvoir à l'époque contre l'opposant Jinping. Mmh. Et à ce moment-là, il a été un peu pris de court par une opposition qui était assez unie. Puisqu'il y avait des personnalités comme Laurence Dong, il y avait des personnalités comme Maître Méré, paix à son âme, il nous a quittés début 2021. Il y avait un ensemble d'opposants, y compris dans le monde artistique. Mais cette opposition unie n'a pas suffi face aux armes. Mm-hmm. Il a envoyé, pour garder le pouvoir, il a envoyé des gens tuer des opposants au QG de l'opposant Jinping, avec, je crois, des dizaines de morts qu'ont reçu certains, des balles dans le dos. Et je pense que c'est à partir de là, le déclic a été très violent. Il s'est installé quelque chose de pesant dans la vie gabonaise, que ce soit là-bas ou que ce soit dans la diaspora. Il est allé très très loin, il est allé beaucoup plus loin que son père, on va dire, dans...
La violence.
Dans la violence et dans la mise au pas d'un peuple.
Parce que son père achetait.
Le père avait un certain charisme. Alors il faut faire attention, parce que certaines personnes ont tendance à idéaliser. Le Gabon des années 80, c'est une vraie dictature, il ne faut pas l'oublier.
Non.
Et le Gabon des années 90, c'est une dictature soft. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est toujours important de le rappeler.
Sans oublier les opposants qui ont eu des morts mystérieuses, je pense.
Les opposants qui ont eu des morts mystérieuses, les opposants aussi qui étaient achetés. Le clientélisme a très bien marché. Mmh. C'est un petit pays, il y a 2 millions d'habitants. Grosso modo, tout le monde connaît tout le monde. J'exagère, dans 2 millions d'habitants, tout le monde ne peut pas connaître tout le monde. Mais ça donne l'idée d'un petit pays. Vous prenez une ville comme Libreville, c'est 160 000 habitants. Vous comprenez ? Mmh. Donc, les gens connaissent, même quand ils ne connaissent pas directement... tout se sait. Ce qui s'est passé en plus, contrairement à l'époque du père, c'est que à l'époque du fils, chaque famille espérait toujours un oncle d'Amérique. C'est-à-dire quelqu'un qui était dans un gouvernement et qui allait arroser la famille. Et ça, peu à peu, les robinets se sont eux aussi taris de ce côté-là. Vous comprenez ? Mm-hmm. Donc en fait, il y a eu tout un ensemble de causes qui ont fait que la vie était invivable et que les gens, les opposants et les gens qui n'étaient pas d'accord avaient peur. Il faut bien comprendre que beaucoup même des artistes n'ont pas pu retourner au Gabon parce que vous pouviez pas avoir la garantie dans la rue que des gens viennent vous kidnapper. Et vous ne savez pas où on retrouve votre corps.
Tout à fait.
Et c'est ça qui est très troublant, c'est que maintenant, depuis le 30 août, moi je suis assez étonné de voir comment des gens ici et dans le monde entier réalisent que c'était une dictature quand ils voient les foules en liesse. Ils le réalisent, mais donc ils n'avaient pas compris avant.
Non, ils ne voulaient pas comprendre.
Ou alors ils ne voulaient pas comprendre.
Parce qu'il y a deux livres majeurs qui sont sortis, qui
Pierre
ont bénéficié. Non, je pensais au livre de François-Xavier Verchab, La France-Afrique et Noir Silence,
oui,
qui avait
oui,
été
oui,
attaqué
oui,
par
oui,
Omar Bongo, notamment, qui montrait la réalité du Gabon. Omar Bongo avait attaqué le livre avec Sassou Nguesso et Idriss Déby, et il avait perdu. Alors que tout le monde donnait Bongo gagnant pour ce procès, et même Verchab, parce que j'ai travaillé avec Verchab pendant 11 ans, il doutait sa victoire contre Bongo. Il n'en doutait pas contre Sassou Nguesso et contre Idriss Déby, mais pour Bongo, il était réticent. Il n'y avait que moi qui était sûr qu'il y aurait un sans faute pour le livre Un Noir Silence.
Parce que c'était sourcé.
Ah, plus que sourcé.
Voilà, les sources étaient difficiles de
le travail de Verchab, c'est un travail d'une profondeur inouïe.
Bien sûr.
Un Noir Silence est toujours d'actualité. On peut le lire jusqu'à présent et apprendre des choses. Et j'encourage tous les Gabonais qui nous écoutent à lire Noir Silence et à lire surtout le procès, le livre sur le procès de Noir Silence, qui est Noir Procès, qui sont les deux livres aux arènes. Et s'ils veulent comprendre le Gabon avant les bongos, parce qu'on s'imagine que sans les bongos, avant les bongos, il n'y avait rien.
Non, il y avait
autre chose.
Il
faut lire La France-Afrique, qui est aux éditions Stock.
Oui, on pourrait aussi parler de Léon Ba, le coup d'État qu'a raté contre Léon Ba.
Tout à fait.
On pourrait parler de tout ça. Moi, ce que je voudrais... C'est vrai que j'étais très ému, évidemment, par la foule en liesse. Hein. Ça, c'est quelque chose... Je regrette presque de ne pas avoir été là-bas sur place. Et en plus, là, j'étais en province, mais par exemple, devant l'ambassade du Gabon, ils étaient heureux comme tout. Et vraiment, il y avait une joie.
Et on sentait qu'ils étaient libérés, enfin.
C'est ça. Et ce qui m'étonne vraiment, c'est... J'ai encore, on en discute hein, dans la diaspora gabonaise, on a des gens qui ne supportent pas cette joie-là.
Ah oui, et qui veulent le retour.
Et qui veulent le retour, et qui ne supportent pas, et c'est très étonnant, vous voyez, comme quoi tout a un sens au bout de plusieurs années. Par exemple, le Gabon n'est pas réputé pour être un pays qui appartient à ce qu'on en appelle les ensembles intellectuels panafricanistes.
Non.
Le panafricanisme n'a jamais pris place au Gabon. C'était un pays qui était tourné, grosso modo, vers la France, la Suisse et les États-Unis.
Tout à fait.
Et l'Afrique du Sud et le Japon dans une moindre mesure. Mm-hmm. Donc, le panafricanisme et le Gabon, ça n'a jamais, on n'a pas collé. Et on voit bien, finalement, le retour, c'est que les panafricanistes, en tout cas les autoproclamés panafricanistes, n'arrêtent pas de salir ce qui se passe au Gabon sur les réseaux sociaux et disent des choses assez horribles. Donc, l'une des choses qui consiste à dire que tout ça, en fait, c'est voulu par la France derrière, qui est en train de tenir les manettes.
Et que c'est une révolution de palais.
C'est une révolution. Alors, ça c'est sûrement une révolution de palais, mais peut-être que ça ne pouvait pas être autrement vu les conditions dans lesquelles on était. Maintenant, dire que la France ou la Russie serait derrière, ce qui n'est pas le cas, c'est aussi, ça soit des Africains qui le disent ou que ça soit des Européens, il y a quand même une dimension très raciste là-dedans. Ça veut dire qu'on estime que finalement...
Le peuple n'est pas capable de se...
pas capable de s'occuper de lui-même. C'est ça que ça veut dire.
Voilà.
Et en fait, c'est cette mentalité-là qui a prévalu pendant 40 ans.
C'était 55 ans.
55 ans, même plus. Que c'était, nous décidons et nous savons ce qui est bon pour vous, les Africains. Mais alors, quand ça vient des Européens, à la limite, on n'est pas étonné. Mais quand ça vient aussi des autres Africains,
ça fait
c'est
mal.
Assez blessant. Et moi, je constate quand même, et on est nombreux à le constater, que... Quand ce coup d'État a eu lieu et que celui qui voulait tricher a été destitué, de façon unanime, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Chine et la Russie, qui d'habitude entre eux se tirent entre les pattes, là pour le coup, ont tous solennellement condamné le coup d'État. Par contre, où était-il en 2016 pour condamner le coup d'État institutionnel ?
Tout à fait.
Nulle part.
François ?
Yann, je voudrais te poser une question. Parce que je suis très intrigué par ce que tu dis. Tu dis que le peuple a c'est ce que j'ai lu aussi, hein, ce que j'ai lu, a applaudi à grands cris à l'annonce de ce changement de gouvernement. Je voudrais que tu me dises comment les gens de la rue, comment les Gabonais de la rue sont mis au courant de ce qui se passe dans leur pays. Est-ce qu'ils ont une presse? Est-ce qu'ils ont des médias indépendantes ou plus ou moins objectives? Ou est-ce que pas?
Il y a des médias au Gabon, il y a un ensemble de médias privés, je pense à Gabon Media Time, il y a Gabon Review, il y a Info 241, il y a Top Info Gabon, il y a des chaînes privées de télévision. Après, évidemment, il y a la grande chaîne nationale, alors avant ça s'appelait RTG Gabon, maintenant ça s'appelle Groupe Télévision Gabon. Et il y a, donc et d'État, hein, là pour le coup, il y a un ensemble de radios. Et en fait, bon, les communications Internet étaient coupées pendant le week-end, pendant le moment crucial des élections. D'ailleurs, je précise que le fait que les médias soient fermés et qu'Internet soit coupé, ça n'a pas non plus gêné la communauté internationale.
Ça n'a ému personne.
Mais bon,
sauf les défenseurs des droits. Ceux-là, on les écoute jamais.
On les écoute jamais en général. Sinon, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Comme je disais que c'était un petit pays, les choses se savent très vite. Les gens parlent quand même entre eux. C'est pas parce qu'Internet est coupé ou que les médias sont accessibles. Les gens parlent au contraire. Et par exemple, pour ce qui est des militaires, faut bien comprendre que les militaires, ils ont de la famille partout. Et voilà, beaucoup de familles ont des militaires. Donc les choses se savent très vite quand même. Donc ça, les gens l'ont su dans la nuit, puisque effectivement la destitution a eu lieu, je crois, à 4h30.
Ouais.
Donc les gens, très très vite, dès 5h du matin...
Ils sont sortis dans la rue.
Les gens, ça a vraiment fait un effet...
Libérateur.
Libérateur et boule de neige, hein, vraiment dans tout le Gabon, parce que c'est pas cantonné à Libreville, c'est vraiment l'ensemble, villes, hein, du Gabon, effectivement. Et d'ailleurs... ça me donne l'occasion, si Mariama permet.
Oui.
Oui. Je voudrais, à ce titre, effectivement, rappeler. Je ne vais pas le faire en entier. C'est pas pour verser dans le patriotisme béat. Ça ne m'intéresse pas. Mais on a une hymne, hein, la Concorde, hein, qui est célèbre, qui est peut-être l'hymne francophone africaine la plus célèbre du monde depuis 2016 au moins. Peut-être en Afrique, peut-être la concurrence, c'est l'hymne sud-africaine, Kosilele y Africa. Mm-hmm. Et là, donc, c'est la Concorde. Le texte, c'est Georges Aleka Damas, qu'il a fait en 1960. Et Georges Aleka Damas a aussi présidé l'Assemblée nationale de 1964, je crois, 1970, mais je ne suis pas sûr. Et le texte, en fait, est assez puissant, et vous comprenez pourquoi. Si vous faites attention et si vous remarquez bien, dans les rues, lors des manifestations de joie, les gens chantent régulièrement cet hymne. Elle a la même puissance pour la société gabonaise et la diaspora gabonaise que la Marseillaise peut avoir pour beaucoup de gens ici dans certains moments assez durs. Par contre, elle n'a pas forcément la même violence de texte, c'est très différent et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, cet hymne, c'est vraiment... oui, je pense que c'est l'hymne la plus célèbre, c'est l'une des plus célèbres du monde. Unis dans la concorde et dans la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité, éblouissant et fier. Le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu, et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité.
Donc
là, vous avez compris un peu le sens du texte. Et pense qu'avec une aurore qui se lève, c'est cette phrase, une aurore se lève, c'est quelque chose qui résonne pour beaucoup de gens. Ça a un sens. C'est très profond. Et c'est pas par hasard que les gens chantent. Et je sais qu'ici, des gens ont un peu du mal à comprendre en France le rapport que des gens peuvent avoir avec un drapeau. Mais là, ce drapeau vert, jaune, bleu possède une très grande signification pour le coup. Et si vous avez fait attention, vous aurez vu que beaucoup de gens dans les manifestations les avaient. Par contre, si vous aviez fait attention aussi, vous auriez remarqué que dans les meetings du président sortant, qui voulait garder le pouvoir, les drapeaux étaient très peu présents. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui a été noté. Il y avait très très peu de présents. Il y avait beaucoup de t-shirts à l'effigie du président, de symboles à l'effigie du président. Mais il n'y avait pas beaucoup de drapeaux vert, jaune, bleu. Voilà, c'était important pour moi. C'est une hymne que j'ai appris. J'étais au CE2 à l'école conventionnée Gros Bouquet à Libreville. Et oui, ça fait toujours quelque chose quand on voit les vidéos et la joie, la ferveur des gens chanter cette chanson, que ce soit à Port-Gentil, à Franceville, à Mwanda, à Lambaréné, à Bitam. Voilà, c'est vraiment très émouvant.
Bon. Alors, le Gabon, avant les bongos, il y a un nom qui émerge, c'est Leomba. Si tu pouvais en parler 30 secondes.
Très peu, c'est celui qui a été, comme on dit, placé par les réseaux Focard lors de l'indépendance. Donc l'indépendance du Gabon, c'est le 17 août 1960. Et donc il a été placé, et il a été menacé dans l'exercice de ses pouvoirs par un coup d'État. Il a réussi à être établi dans ses fonctions, et puis il est décédé, et c'est Omar Bongo qui a pris le relais.
Alors Omar Bongo avait des fonctions auprès de Leomba, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Focard l'a choisi.
Oui. Et puis c'était avant même. C'était quelqu'un, c'était un rebelle. Il était dans l'armée, je crois, et il avait une forte présence. Et il a été remarqué justement par les dignitaires français pour son comportement. Voilà, ils se sont dit bon, il y a quelque chose à faire avec cet homme-là à la tête du pays.
Alors Bongo, 1967-2009, Omar Bongo.
Déjà, oui.
Ça fait beaucoup.
Oui.
Trop.
Oui, on peut se consoler en disant qu'avant il y avait les dinosaures il y a longtemps.
Oui.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez?
Quel
humour. Mais il faut de l'humour, il faut de l'humour. Ben voilà. Non. Je suis né, il était là. Ma sœur est née, il était là. Mon fils est né en décembre dernier. C'est le fils qui était là.
Non, mais il grandira sans.
Oui, mais je suis très content de ça.
Voilà.
Je suis très content.
Parce que justement, une autre génération arrive aux commandes.
Oui.
Et ça n'a rien.
Ce sera différent, forcément. Il y aura forcément. Moi, ça me fait rire parce que souvent, il y a des gens qui disent vous allez voir, demain, ça va être compliqué, riez bien, etc., etc. Bon, d'abord, je trouve ça un peu malsain comme attitude. Ensuite, c'est vraiment prendre les gens pour des débiles parce que c'est quoi la vie d'une nation ? Il y a des manifestations, il y a des heurts, il y a des tensions, il y a des débats nationaux, des fois d'une extrême violence. C'est la vie d'une nation. Il n'y a pas de raison de penser que tout d'un coup, un fleuve de miel va couler au Gabon, que tout le monde se tiendra par la main en chantant Kumbaya. Enfin, c'est pas ça. On sait très bien que certaines choses vont être dures. Je suis pas quelqu'un d'idéaliste sur la société gabonaise. Je suis même très sévère. On connaît mes positions. Donc,
oui. Tu les as exprimées dans les deux émissions.
Voilà. Donc, j'ai jamais caché ce que je pensais. C'est une société aussi très conservatrice. Beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Donc, je ne peux pas mentir là-dessus. Mais l'ambiance instaurée par le père et par le fils ont eu une emprise directe sur la vie privée des gens. Je voudrais vraiment dire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ma famille, par respect pour ma famille, et par le respect pour la famille des autres, mais je me rends compte à quel point cette ambiance a gâché et gâcher
la vie des gens.
La vie des gens dans le privé. Vraiment, vraiment. Je pense qu'ici, les Français en ont peut-être un aperçu de à quoi ça pourrait ressembler une violence autoritaire, peut-être par rapport aux années Covid. avec la restriction des libertés, etc., tout ça. Il pourrait y avoir quelque chose qui se rapproche. Mais bon, pour le moment, j'espère, on a tourné la page de ça. Mm-hmm. Mais il pourrait y avoir une idée à peu près de ce que ça signifie de savoir que si vous dites un mot de travers...
Vous êtes embarqué. Oui. Et vous disparaissez,
et
surtout.
Et vous disparaissez, oui.
Et votre famille est inquiétée jusqu'à la fin des temps.
Exactement.
Voilà. Bien. Donc, Libération, le journal Libération a eu la bonne idée, dans les heures qui suivaient le coup d'État, de mettre en ligne la carte interactive des 23 propriétés... 28 ? 28 ou 23, je ne me rappelle jamais.
23
23 propriétés.
Il me semble que c'est 23.
Voilà, 23.
Oui. Propriétés. Et ça, c'est grâce à l'association Survie, il me
semble. Oui, dans laquelle je milite, entre autres. Propriété mal acquise des bongos, des bongos, pour lesquels on a un juge qui a vraiment fait son travail, le juge Blanc. Il s'appelait Dominique Blanc.
Oui.
Voilà. Et qui a fait un réquisitoire sévère sur la famille Bongo, qui a fait mettre en examen 9 des 47 enfants d'Omar Bongo pour ses biens mal acquis, malgré la mort de leur père. Donc, si vous allez sur le site de Libération, cette carte est interactive, elle est exhaustive. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils ont acheté dans l'Est parisien. Ils ont pris ce qu'on appelle le triangle d'or de l'Ouest. Les rues les plus chères.
Ouais, un peu comme les Qataris.
Oui, c'est ça, ils se sont battus avec nos ennemis. Hein.
C'est normal. Ils ont des très bonnes relations d'ailleurs avec eux.
Oh, tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça. Bien. Donc, on va peut-être faire une pause musicale.
Oui.
Tu vas nous dire...
Oui, la pause, en fait, une aurore se lève, la phrase que vous avez entendue là dans l'hymne, là, une aurore se lève, c'était aussi le titre d'un spectacle que nous avons donné avec des artistes gabonais le 21 janvier 2017 pour protester déjà à l'époque contre l'atteinte aux droits de l'homme par Ali Bongo. Et c'était au Café de la Danse, donc une salle vraiment réputée de Paris. On nous avait promis le pire des échecs possibles. Hein. Je peux vous dire qu'on avait les boyaux qui se tordaient jusqu'au jour de la représentation. Et donc, il y avait François Ngoua en tête d'affiche. Donc, il y avait François Ngoua, il y avait Gérian, il y avait le compteur Chic Polite, il y avait moi, et il y avait Titan Zebi. Titan Zebi, dont vous allez écouter La Caravane Passe, où elle dit vraiment... Alors, il faut resituer la chanson dans le contexte, où elle raconte comment les dictateurs peuvent continuer leur malversation et les opposants crier et hurler. Peu importe, les dictateurs, sûrs de leur bon droit, avancent, le chien boit, la caravane passe. Et cette chanson, est très importante parce qu'elle montre comment aussi... une société, parce qu'il y a les opposants, mais il y a la société civile. Mm-hmm. Et la société civile, d'une certaine façon, pendant 20, 30, 40 ans, s'est accommodée tant bien que mal de cet État, parce qu'elle, pour plein de raisons, il ne s'agit pas de poser un jugement là-dessus, mais elle s'est accommodée de ça. Et donc, c'est La Caravane Passe, et c'est l'une des plus belles chansons de Titan Zebi. Voilà.
Merci à Kamdong de nous la passer.
Bango iba yupi nzalie. Oh, oh, oh.
Auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans l'émission sur le Gabon, le nouveau Gabon, avec Yann Alexander, chanteur très engagé. Alors, tu peux nous dire, nous venons d'écouter...
On vient d'écouter la Caravane Passe de Titane Zebi, donc c'est une très grande chanteuse gabonaise qui met en valeur une autre langue du Gabon, qui s'appelle Nzebi, qui est très peu parlée in fine, mais elle fait ce travail-là, elle se l'approprie. C'est pas une ambassadrice du Gabon, elle s'approprie vraiment dans un style tradit moderne, et d'ailleurs, elle sera sur scène, elle également, le 30 septembre au 360 Factory, et je pense qu'il y aura du monde à Paris.
Bon.
Voilà, et on embrasse.
Merci. Alors, j'ai acheté exprès, j'ai mauvais esprit, hein.
Oui.
Le journal de la presse financière, des patrons, Les Échos, le jeudi 31 août, deux pages sur le Gabon. Mais surtout, un paragraphe très important, les gros français de matières premières chahutés en bourse. Alors, pour ceux
enfin, depuis, je pense qu'ils ont remonté un peu quand même.
Oui, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas.
On ne va pas trop s'inquiéter pour eux.
Oui, on ne va pas trop s'inquiéter pour eux. Ceux qui ne le savaient pas, 81 groupes français sont au Gabon.
Oui, entre autres, on parle de la France, mais il y a d'autres pays aussi.
Voilà.
Bon, la France reste un partenaire essentiel du Gabon, parce que c'est vrai que le pays est... Alors, c'était le père, hein, Omar Bongo, disait que la France avait besoin du Gabon, comme le Gabon avait besoin de la France. Il avait une petite ritournelle là-dessus. Il avait des jeux de mots comme ça qu'il aimait bien dire dans les...
C'est vrai, puisque le Gabon était au centre de la France-Afrique.
Oui, et puis avec un accès à la mer, la présence de pétrole, la présence de manganèse, la présence d'uranium, des bois qui sont exploitables. Voilà, beaucoup de choses à dire.
Beaucoup de richesses.
Oui, beaucoup de richesses. Le Gabon a une particularité pour le coup. On est dans le sujet puisqu'il y a le spectacle du Gabon et la Russie. Il y a un point commun entre le Gabon et la Russie. C'est pas l'hiver, hein, parce que la neige au Gabon, il n'y en a pas beaucoup. On peut faire frais, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, ce sont deux pays très, très, très riches en matière, en sous-sol, en ressources, et pauvres en termes d'habitants.
Tout à fait.
Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est
il y a moins de 2,5 millions d'habitants sur le Gabon.
Alors, 2 millions d'habitants et qui, vraiment, alors, on estime 30% dessous du seuil de pauvreté.
Voilà.
Et même au-dessus, finalement, on pourrait quand même se dire que les salaires pourraient être quand même plus élevés compte tenu de la richesse du pays.
Tout à fait.
Comme on pourrait dire ça pour la Russie, où le salaire moyen, c'est 300 euros par mois.
Le salaire moyen au Gabon, c'est...
Ouf, ça change tout le temps. Les statistiques ne sont pas très, très fiables. C'est très, très bas.
Mm-hmm.
Faut peut-être compter. Je crois une fois, j'avais vu 600, 700 euros par mois.
D'accord.
Ça qui correspond à relativement, enfin, un salaire correct. Mais il faut prendre aussi en compte l'économie informelle. Mm-hmm. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte.
Tout à fait. Alors, le Gabon a été colonisé pour ses richesses.
Comme la plupart des pays.
Voilà.
C'était pas pour redistribuer les richesses de la France.
Non, c'est clair, François. Un peu d'humour. Bien, et dans les groupes qui sont sur place, beaucoup sont des poids lourds du 440. Je pense à Total, à Eramet, Perenco.
Oui.
Perenco. Et dès que l'annonce du coup d'État est tombée, leur cours a chuté. C'était même la première information principale et ça a fait chuter le 440.
Oui. Tout à fait.
Voilà. Bon, donc depuis...
Ramet a repris hein, les activités. Là,
voilà, depuis, et Total racontait à qui voulait l'entendre qu'ils s'occupaient de la sécurité de leur personnel.
Oui.
Comme si c'était une priorité de Total. Ça saurait.
Oui, bon.
Je maintiens mon propos. je connais un tout petit peu Total. Pour avoir travaillé dessus. Bien. Donc, d'ailleurs, pour information, la version de poche de l'excellent livre de Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme, sortira bientôt
D'accord.
en librairie.
D'accord.
Parce que la version branchée était indisponible, donc l'éditeur a eu la bonne idée de sortir une version poche, et Alain Deneau l'a remaniée, et elle sortira bientôt en France. Donc, les jeunes pourront l'offrir plus facilement que la version branchée qui coûtait une vingtaine d'euros.
Oui.
Qui était un peu plus cher. La poche, ce sera un peu moins cher.
Oui.
Et ça leur permettra d'avoir accès à l'information sur Total. C'est le meilleur livre qui ait jamais été écrit sur Total. Voilà, pour information. Bien, donc revenons aux matières premières et au Gabon.
Le Gabon avait besoin de la compétence au début d'ingénieurs et de grosses sociétés qui avaient des capitaux, qui avaient des infrastructures et qui avaient l'appui de la grosse puissance française pour pouvoir exploiter les richesses. Et effectivement, bon... Il y avait une sorte de deal entre l'élite gabonaise et ces entreprises pour on vous passe telle exploitation de matières premières, en retour vous nous versez tant. Vous nous versez tant.
Sur des comptes offshore de préférence.
Alors, malheureusement, c'est ça le problème, c'est que très souvent, une grande partie atterrissait plutôt sur des comptes offshore que au niveau des caisses nationales, même si, encore une fois, il faut le redire, c'est très important, hein, que dans les années 70, dans une moindre mesure 80, il y avait quand même des efforts qui avaient été faits, les étudiants gabonais, les bourses étaient payées, il y avait un système qui fonctionnait économiquement. Je veux dire, peut-être la société a fermé un peu les yeux là-dessus, parce qu'il y avait quand même, on pourrait appeler ça des miettes, mais des grosses miettes. Mais il n'empêche qu'effectivement, quand on a eu une succession de crises ces dernières années, on a bien vu que le robinet devenait de plus en plus...
Se tarissait de plus en plus,
effectivement.
Et le Gabon est tombé dans la crise économique, ce qui est inimaginable.
Exactement.
Pour un pays pétrolier et aussi riche.
Exactement. C'est un vrai problème et... D'ailleurs, bon, je disais tout à l'heure que les grands pays, c'est pour ça, vous savez, on est en... L'un des reproches qui a été fait, bon là par exemple, vous voyez, les expatriés français n'ont pas été inquiétés au Gabon, et puis tant mieux, il n'y a pas de raison de chercher des boucs émissaires à tout prix, mais on sentait une pointe de regret chez certains observateurs dans d'autres pays qui n'aient pas été la cible, ils s'attendaient à voir des drapeaux russes ou des conneries comme ça, mais les Gabonais n'ont pas de fascination pour les Chinois et n'ont pas de fascination pour les Russes, ils n'attendent pas de grands sauveurs. Ils sont pas fascinés par ça.
Ils attendaient qu'on les libère des bongos.
C'est tout ce qu'ils attendaient. Alors on s'étonne. Les gens, ils ont pas l'habitude de voir effectivement une foule acclamer un militaire. C'est vrai que c'est un peu étrange comme ambiance, mais après tout, va falloir s'y faire. On disait qu'en pause, que les choses changeaient d'heure en heure.
Oui.
Voyez, donc le nouveau président.
Alors, Brice Ingema.
Brice Olingi Ingema.
Voilà. Son nom complet.
Donc, il vient de rendre visite, là, tout à l'heure, là, cet après-midi. Il vient de rendre visite à l'opposant qui était censé être
le vainqueur des élections.
Donc, attention à ceux qui disent déjà, oui, il va forcément garder le pouvoir pendant 10 ans, vous allez voir, et ça va être sanglant. On a quand même rarement vu dans l'histoire d'un pays, surtout suite à un coup d'État, un militaire réunir tous les gens de la société civile, les religieux, puis après tous les partis d'opposition et le parti en place, parce qu'on a même des gens de l'ancien parti du PDG qui étaient à l'investiture hier, j'ai suivi
la cérémonie,
sur Internet. Qui réunit tout le monde. Enfin, on a rarement vu un militaire œcuménique, quoi. Faut être honnête. Hein. Donc, c'est assez étonnant. Et même
surtout, il écoute. Et il promet. Il a promis de libérer tous les prisonniers politiques.
Oui, les prisonniers d'opinion.
Et les prisonniers d'opinion. Ça, on attend au tournant.
Je pense que c'est ce qui va se passer. Vous voyez, par exemple, un truc tout idiot. Pour les gens d'ici, peut-être que ça ne signifie rien. Mais il a donné un ultimatum aux responsables de chantier. Qui avait reçu de l'argent de l'État pour faire des chantiers et que les chantiers n'avançaient pas et on se demandait où était l'argent, il leur a demandé d'accélérer les chantiers où c'était la prison. Figurez-vous qu'il y a certains chantiers qui redémarrent maintenant.
Ah.
Il y avait des problèmes aussi au niveau de l'alimentation en eau courante dans certains quartiers. Le lendemain du coup d'État, l'eau courante est revenue. Mm-hmm. C'est très troublant ce qui se passe. Je pense que pour des gens à l'extérieur, c'est étonnant. Et je pense que c'est étonnant aussi parce qu'encore une fois, les gens... parce que cet événement a été commenté dans l'ensemble des médias au Cambodge, en Thaïlande, au Japon. Vraiment, c'est l'ensemble des médias parce que les gens ont perdu l'habitude de voir un peuple heureux parce qu'un dirigeant s'en va. Parce qu'une dynastie longue de presque 60 ans s'en va. Les gens ont perdu l'habitude de ça. Les dernières grandes images de foule en liesse, c'est peut-être Nelson Mandela quand il arrive...
Oui. Et qu'il a été élu président.
En 94, c'est peut-être la chute du mur de Berlin.
Oui.
Ça pourrait peut-être être la mort de Ceausescu en Roumanie. Mais on n'a pas beaucoup d'images très fortes comme ça des gens... Ou Obama, peut-être, quand il a été élu en 2008. Mais on n'a pas d'images en liesse comme ça. C'est très, très rare. Dans l'histoire du monde contemporain, c'est rare. Donc, du coup, ça interroge. Maintenant, les gens ne sont pas idiots et puis la mémoire n'est pas très courte. Là, vous voyez, je vais vous citer 2-3 vers de l'auteur, le presque grand Bungili, qui est un auteur, il est enseignant mais il est aussi poète. Et il avait fait un texte qui s'appelle « Mémoire d'août » pour une référence au triste mois d'août 2016, où il y avait eu donc ces fusillades d'opposants. Et il disait « Noir, noir comme cette nuit, s'étirant de tout son long, le long de ses côtes équatoriales, les clercs et hommes liges abonnés aux justifications mensongères, comme on s'abandonne aux effluves éthyliques d'absinthe et de vermof, ivres et bedonnants, pressés de crier à tue-tête ce diptyque à la crête de cet ultime jour, de cette ultime heure, qui n'est que l'heure d'un bonheur maquillé au contouring du dilettantisme, au make-up de la duperie. » Donc, quand on voit ce genre de texte et la réaction des artistes et des poètes face à ce qui a été vraiment une blessure profonde, c'est vrai que bon, l'attitude des entreprises qui sont au Gabon pourrait être quand même un peu plus, on sait bien que les affaires sont les affaires, mais pourrait peut-être être plus empathique, pourrait peut-être être plus digne. Je trouve pas qu'elles soient très dignes. Et je crois qu'elles ont été aussi rappelées à l'ordre justement par Brice Olingi Nguema en leur disant, bon, maintenant, il va falloir aussi, vous êtes au Gabon, il va falloir réfléchir à l'intérêt des Gabonais. Et ça, il a rappelé à l'ordre le patronat dans son ensemble la semaine, je pense que c'était lundi.
Oui.
Il a fait ça.
J'ai les échos de lundi qui en parle et qui dresse un portrait de lui. Alors, est-ce que on peut faire un extrait musical ?
Oui. Ben, moi, je voudrais faire l'extrait musical avec Pierre Akenenge. C'est Mon pays entre soleil et pluie. Voilà, c'est ça, exactement. Mon pays en soleil et pluie. Parce que il parle vraiment, c'est vraiment le grand chantre du Gabon. Hein, vraiment, c'est. Il est au Gabon, je ne sais pas moi, ce que peut-être Léo Ferré est à la France. Et il dit des choses très profondes. C'est une chanson de 74 sur l'album Obota. Et voilà, il parle de cet amour de ce pays. Il faut savoir que lui, il a été exilé pendant les années 70 par le pouvoir de Omar Bongo.
Oui.
Voilà, déjà dans les années 70.
Déjà. Merci, Kandong.
Mon pays s'attarde vers la mer, pays soudain voyage à travers soleil et pluie. Mon pays accroche ses forêts tel un radeau de feuilles mortes le long du fleuve. Et bien étrange la lente marche des mortels à l'est de l'immortalité. Dans mon pays, il y a bien un rêve qui pagaille, tant de pagailleurs qui n'arriveront jamais. Mon pays avale à forte dose de ce vin en poudre dont raffole nos dames jeunes. Mon pays a planté dans ses fortins quelques canons qui serviraient de téléphone. Que sont étranges tant de signes avant-coureurs des folies et des drames à venir. Car mon pays, c'est comme un regard qui espère ou redoute quelque chose. Mais dans la nuit, un grand éclat de rire, c'est mon pays qui rit ou qui pleure comme on rit. C'est mon pays qui pleure sa liberté en riant, comme font les tambours et en battant des mains. À court alors les étrangers, ceux qui chantent en
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde avec Yann Alexander, chanteur très engagé, et nous parlons du Gabon.
Oui.
Et là, nous venons d'écouter
Pierre Akenenge.
Bien, le Léo Ferré gabonais.
Oh, Léo Ferré, je ne sais pas si... Oui,
je plaisante.
Enfin, j'ai dit Léo Ferré tout à l'heure. Enfin, en tout cas, vraiment, on ne peut pas penser la musique gabonaise sans penser à Pierre Akenenge, et puis je pense que c'est pas par hasard moi-même que je fais de la chanson à texte. Il a été celui qui a Nougaro disait de lui qu'il avait installé la chanson à texte en Afrique, et c'est vrai. Et on lui doit ça, je pense, des gens comme moi, comme Anne-Flore Bacelelis, même Tita Nzebi, dans une moindre mesure. Elle, elle fait de la chanson en Nzebi, mais c'est de la chanson à texte. Il y a une profondeur, un rapport. Et d'ailleurs, c'est une façon aussi de dire à quel point le Gabon a tout un ensemble d'atouts. On parlait effectivement des ressources, des matières premières, de tout ça, mais même au niveau des gens, on a des intellectuels assez formés, de très bonne qualité. On a un ensemble de médias, on a tout un ensemble de gens. Fallait voir la cérémonie d'investiture, je pense qu'elle a impressionné pas mal de gens, parce que ce genre de cérémonie, ça ressemblait davantage à ce qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis ou en France. Ça ressemble moins, on pense pas forcément à l'Afrique en voyant ce genre de cérémonie, c'était très bien cadré. Je pense que le Gabon est vraiment un pays à part et que peut-être que ce qui s'est passé depuis lundi, c'était une façon de remettre les choses à plat et de rectifier le tir et de dire ça suffit. Je pense que c'était ça aussi l'intérêt de ce coup d'État qui, où il y a, je le rappelle, il n'y a pas eu de mort.
Non.
Il n'y a pas eu de pillage. Il n'y a pas eu de casse. Il n'y a pas eu de lynchage non plus. Il y aurait pu avoir du lynchage.
D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, le général. Il a dit que s'il prend le pouvoir, s'il a pris les choses en main, c'est pour éviter un mal de sang.
Bien sûr, parce que vous imaginez, parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit dans le carte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la société gabonaise s'est aussi accommodée de certaines choses pendant des décennies. Mmh. Vous doutez bien qu'il y a des gens qui soutenaient également
les bongos.
Les bongos. Est-ce que vous imaginez le carnage si qu'est-ce qui se serait passé des règlements? On a vu ça dans d'autres pays, donc
tout à fait.
Je pense qu'on peut lui rendre honneur à Brice Oligui Nguema d'avoir évité ça. Parce qu'en plus, bon, je pense que ça a renforcé les rancœurs de certaines personnes à l'étranger. La mort fait vendre. La mort fait vendre. La mort, ça fait de l'audience. Ça n'intéresse personne de voir que...
Pour les journaleux.
Voilà, pour les journaleux. Ça n'intéresse personne de voir que...
Le
train arrive à l'heure. Un coup d'État sans mort. Imaginez quand même, hein, un coup d'État sans mort. Est-ce que vous imaginez la signification?
Il y a eu en 74 le coup d'État au Portugal.
Oui.
Il y a eu la révolution des œillets.
Bien sûr, mais là je parle de l'Afrique où souvent les coups d'État sont sanglants. Ils sont sanglants, ça.
Ouais.
Voilà. Donc il y a pas de mort, il y a pas de casse, il y a pas de pillage.
Ouais.
Et il y a des gens qui sont heureux et qui applaudissent et qui chantent une gabonaise. Bon, c'est beaucoup pour les gens. Ça fait trop de, entre guillemets, trop de bonnes nouvelles pour les esprits pessimistes. Imaginez qu'il y ait des morts. Vous auriez le journaliste ou l'intellectuel de plateau qui dirait le moment tant redouté est arrivé et ainsi. Mais non, ce n'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'une fois que tout ça s'est passé, les médias commencent à passer à autre chose et parlent d'autre chose. Parce que,
notamment ce qui se passe au Niger,
voilà, c'est pas
où
si
on maintient un ambassadeur de France et où, jusqu'au coup d'État au Gabon, Niger faisait la une de l'actualité,
oui,
parce qu'on se demandait quand est-ce que la CDAO,
oui,
allait intervenir militairement dans un pays.
Il n'a pas l'air très pressé d'ailleurs.
Et il fait de nouveau l'actualité. Parce que le Gabon n'est plus tant intéressant que ça. L'investiture s'est passée, il n'y a pas eu de mort non plus, hein, vous avez remarqué hier. Hein, le serment s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Il a rencontré tous les gens de partis politiques. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez Bon, mais faut, voilà, peut-être qu'il y aura des morts et que... BFM traitera l'affaire en disant « Enfin, le jour est arrivé ». Je ne sais pas du tout. Non, plus sérieusement, il faut être sérieux. Pour le moment, les choses se passent bien. Très bien. À l'heure d'aujourd'hui, les choses se passent bien. On ne sait pas comment sera demain, mais pour le moment, les choses se passent très bien.
Alors,
vous pouvez poser une question.
Oui.
Vas-y, François.
Est-ce que le général qui a fait ce putsch... Il était connu des Gabonais et de toi, par exemple.
Alors moi, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas. Mon père le connaissait. Mon père a été diplomate. Hein. Il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Donc mon père a connu un peu ce monsieur. Moi, à titre personnel, le nom me disait vaguement quelque chose, mais je n'avais jamais vu son visage. Et je pourrais pas mentir. Et je pense que beaucoup de Gabonais ne le connaissaient pas plus que ça. Non,
c'est un homme du Sérail.
C'est un homme du Sérail. C'est un homme, effectivement, on se souvient des enquêtes qu'il y a eu sur lui. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Mediapart avait fait un article sur lui et qu'ils ont retiré l'article. Enfin, ils avaient fait un article il y a 4-5 ans, puis ils ont retiré l'article
alors,
là, il n'y a pas longtemps.
À charge. C'était un article à charge.
Apparemment, oui.
Non, mais par contre, l'information essentielle de l'article de Mediapart a été reprise par Libération.
D'accord.
Et on en parle dans la prochaine demi-heure,
oui.
Parce qu'on va faire le portrait de Brice
Olinguema.
Olinguema, oui. Je vais y arriver.
Oh. Brice Olinguema.
Bon, en attendant, on va t'écouter. Et ça, je m'en lasse pas, parce que je suis une
c'est
fan.
C'est gentil, merci.
C'était à Port-Gentil.
Oui, c'est sorti en 2018 et effectivement, d'ailleurs, Titan Zibi apparaît dans le clip qui a été tourné par Monique Autier et c'est un résistant, nous on appelait ça résistant, hein, les gens qui étaient contre le pouvoir et qui faisaient des choses et des actions en ce sens-là, et c'est Régis Essono qui avait filmé des images de manifestations, qui m'a accordé le droit d'utiliser des images de manifestations dans le clip « C'était à Port-Gentil ». C'est une chanson qui est née en fait de moi. Vous savez, je suivais toujours ce qui se passait au Gabon, mais j'avais un lien finalement assez ténu avec la diaspora. J'étais dans mes propres problématiques, y compris personnelles, mes problématiques de chanteur, de chanson à texte, poétique. Il fallait trouver une place. Le milieu chanson était quand même, il faut le dire, assez réac. Hein. Vous étiez de couleur et vous chantiez Anne Sylvestre. Les gens vous regardaient. Enfin, il n'y a pas eu de belles choses. Hein. C'était pas... Faut être franc.
La pauvre Anne Sylvestre, elle n'a pas réussi.
D'ailleurs... Non, mais je veux dire, voilà, il y avait vraiment des reproches qui étaient faits. C'est qui ce gars qui chante au piano? Des fois, on me demandait pourquoi je n'amenais pas un tam-tam. Enfin, des trucs un peu comme ça. Donc, il fallait que je me débatte un peu avec tout ça. Mais peu à peu, j'ai quand même... je ne suis pas nostalgique, mais le Gabon, il s'avère que j'y suis né. J'ai vécu ma petite enfance au Canada, mais sinon, j'y suis né et j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Papa a travaillé au Gabon, ma mère a travaillé au Gabon. C'est l'État gabonais qui m'a versé ma bourse d'étudiant. Faut jamais l'oublier. Donc, je sais ce que je dois à ce pays, qui en plus est le pays natal, c'est le pays de mon père, c'est mon pays, et je sais ce que je dois à ce pays. Donc, mais c'est vrai que j'avais d'autres problématiques et le côté un peu tradit de la société gabonaise ne me plaisait pas. Je suis un homme métis, j'appartiens à la communauté LGBT, je n'ai jamais caché. Et c'est vrai que cette façon d'être franche, claire, pouvait heurter ici comme elle pouvait heurter là-bas, mais je me suis toujours cramponné à ça, d'être libre envers moi-même et de ne pas tricher là-dessus. Mais ce qui s'est passé en 2016 avec ces morts, ça m'a fait un électrochoc parce que vous savez, c'est comme un kaléidoscope de tout un tas de souvenirs de la vie que vous avez eue au Gabon.
Oui, notamment
qui reviennent.
L'affaire Rejembe.
Et puis il y a ça, on pourrait parler longuement, mais on en avait déjà parlé la dernière fois, effectivement. Et j'invite les auditeurs à écouter l'émission.
À réécouter l'émission, oui.
Parce que c'était.
On a passé une première partie sur le Gabon.
On en avait parlé, effectivement,
sur
l'impact familial aussi. Mm-hmm. Mais. Oui, là, c'est un tel choc que la première chose que j'ai faite, dès que j'ai appris que des Gabonais se réunissaient à République, la place de la République, sans réfléchir, j'y suis allé. Mais rien que pour voir d'autres Gabonais, et puis simplement peut-être se soutenir mutuellement les uns les autres. Mais c'est vrai que c'était un choc ce jour-là. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu ce choc... il y a eu tout un tas de reconnexions avec la diaspora gabonaise, avec la communauté gabonaise, j'ai des cousins au pays avec qui j'ai repris contact et on s'entend très bien, que je n'ai toujours pas vu, mais maintenant une brèche s'entoure et j'ai l'espoir enfin de retourner au Gabon l'année prochaine ou dans 2 ans sans trop être inquiété, parce que là je ne pouvais pas y aller jusqu'à peu, c'était pas conseillé, plusieurs personnes me l'avaient déconseillé. Mais du coup, je me suis reconnecté avec toute une diaspora gabonaise et c'était très intéressant. Et j'ai vraiment réalisé que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on vient de quelque part et que je suis vraiment européen. Il n'y a pas de doute possible par ma mère, ma famille maternelle. C'est une famille européenne, vraiment française, blanche, de province, enfin vraiment la totale. On a même deux Montagu dans mes grands-parents. Donc, et de l'autre côté, il y a le Gabon. qui est là, qui est bien présent, et j'arrive à peu près à faire la synthèse des deux, tout en gardant ma propre personnalité, mon identité. Et cette chanson, c'était à Port-Gentil, c'est une façon d'évoquer, j'évoque un voyage avec mes parents à Port-Gentil depuis le port de Libreville, et je vais plus loin et je raconte un petit peu mon rapport à ce pays. Et cette chanson avait pas mal marché à l'époque quand elle est sortie, et elle est devenue un incontournable des spectacles, effectivement.
Je confirme. Kandang, s'il te plaît, c'était à Port-Gentil. Merci.
C'était à Port-Gentil, nous arrivions la nuit, à bord d'un petit bateau, première et deuxième classe. Nous étions en famille, nous étions des touristes, et je n'arrivais pas à me sentir à ma place, rêvant d'ailleurs, d'autres nuits, d'autres saveurs, voulant faire battre mon cœur, changer de vie, rêvant d'ailleurs, d'autres jours, d'autres couleurs, avant que le cœur ne meure. Plus verte ailleurs, j'ai vu d'autres paysages, me suis fait tant d'amis, et des amours, des peines et des bonheurs. J'étais ailleurs, errant jusqu'à l'oubli de moi-même. Cet oubli, une armure pour les faibles. Une autre vie, j'étais ailleurs, découvrant d'autres visages, abordant d'autres rivages et d'autres imprévu, le sang qui coule est un triste rappel à l'ordre. J'ai marché dans les rues avec tant d'inconnus, chantant l'espoir, la révolte, la concorde. Je te tendais les bras, Gabon d'une adolescence. Je n'ai jamais oublié les lumières de Libreville. Je te tendrai les bras, peu à peu je sais qui je suis, un gamin de Libreville a retrouvé son cœur. Un gamin de Libreville a retrouvé son cœur.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire. 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Alors, nous sommes dans la dernière partie de l'émission sur le Gabon avec le très engagé et formidable Yann Alexander.
Merci. J'aime beaucoup de mots formidables, ça me fait
Merci.
Plaisir.
Merci. Alors, François nous faisait remarquer qu'on a peu parlé de la vie courante du Gabonais moyen.
Eh bien, la vie courante du Gabonais moyen...
Avant de parler du premier Gabonais, oui, Oligui Nguema.
Oui, Brice Oligui Nguema. La vie courante, c'est une vie qui ressemble un peu à la vie de l'occidental moyen. C'est une vie, alors il n'y a pas métro, boulot, dodo, mais on va au boulot, on travaille, on rentre le soir, il y a des occupations, il y a des bars, des restos, les gens se donnent rendez-vous dans les boîtes, dans les bars, avec les terrasses. Il y a, quand les gens ont les moyens, le temps où ils trouvent les moyens, il y a une forme de Dolce Vita, les gens aiment aller à la plage. Il y a beaucoup de choses comme ça, les plaisirs de la vie. Les gens aiment bien ça, les plaisirs de la vie. Ma mère en a parlé très bien dans un ouvrage qui s'appelait « Ceci n'est pas l'Afrique », qui est sorti en 2010 chez l'Harmattan. Ce livre avait assez bien marché, il marche toujours, mais ça n'avait pas plu aux gens qui voulaient de l'exotisme à tout prix, parce que ma mère racontait en fait la vie quotidienne à Libreville, qui est une capitale comme les autres finalement, et elle racontait des choses toutes bêtes, mais finalement qui étaient assez subversives à l'époque, où par exemple elle raconte comment elle retire de l'argent dans un distributeur bancaire. Ça peut paraître banal, dit comme ça, mais il faut voir qu'en France, il y a encore des gens qui pensaient qu'il n'y avait pas de banque à Libreville. Qu'il n'y avait pas...
Il n'y avait pas de banque à Libreville, c'est pour moi qui pleurerais pour les Gabonais.
Voilà. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait plein de choses, et des fois, des gens étaient déçus quand elles revenaient en France, parce que des gens lui disaient, est-ce que tu as vu des girafes? Est-ce que tu as vu des éléphants?
Ah, voilà, un peu de brousse.
Mais non, derrière nous, il n'y avait pas d'éléphants qui se baladaient dans le jardin. Par contre, ni de zèbres. Il y avait des chauves-souris dans les mangliers, il y avait des serpents, des fois, qui pouvaient s'aventurer, les fameux mambas, les verts, les noirs. Il y avait des cafards, il y avait des rats, mais il n'y avait pas de zèbres, il n'y avait pas de girafes, il n'y avait pas d'éléphants. Et à l'époque, ma mère avait sorti, c'est ça, « Ceci n'est pas l'Afrique », Anne-Cécile Makosso Akanenge. Et ce bouquin avait beaucoup... Alors, la communauté gabonaise avait beaucoup aimé. Mais par contre, alors, il y a des gens qu'il faut fuir à tout prix. Fuyez-les, si vous les voyez. C'est les pires, c'est les Blancs qui aiment l'Afrique. Fuyez-les. Parce qu'ils ont une idée préconçue de ce que doit être l'Afrique, de ce que doit être un musicien africain, de ce que doit être la culture africaine. Eux, combien de fois j'ai entendu dire « Oui, c'est la ville, c'est pas l'Afrique authentique. » On a envie de me dire « Mais du con, la ville fait partie de l'âme d'un pays. » On va pas dire la France... c'est pas la France authentique. Mais si, Paris, c'est la France. Faut arrêter, faut pas prendre les gens pour des cons. Et il y a cette idée que ce qui est authentique, c'est si vous allez dans un village où il y a pas d'eau potable...
Pas d'eau courante.
Qu'on va prendre... Oui, là, j'étais vraiment dans l'Afrique authentique. Je suis allé chercher l'eau dans le puits. Ah, puis alors tout le monde s'extasie. Et tout, et ça, c'est vraiment rédhibitoire. Et bon, ma mère, mariée à un Gabonais en tant que femme blanche française, mais finalement, elle a vécu une vie classique.
C'est Roger Nimier qui faisait partie de ces personnages-là dont tu parles, de Franchouillot africain.
Oui.
Parce qu'ils piquaient, ils ont piqué plein de.
Oui, bien sûr. Mais oui, elle n'aimait pas beaucoup Roger Nimier, ma mère d'ailleurs.
C'est un grand pillard.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la vie quotidienne, en tout cas, et on parlait en pause musicale du service public. Il y a des lycées publics, et des écoles publiques. Il y a vraiment c'est un pays où il y avait beaucoup de fonctionnaires. Il y en a toujours beaucoup.
Beaucoup de salariés.
Beaucoup de salariés, oui, mais beaucoup dans la fonction publique. Voilà, ça c'est important de le dire. Ouais. Beaucoup de fonctionnaires.
Et tu as évoqué tout à l'heure en deux mots une forme d'économie parallèle, de travail au noir.
Oui, c'est l'économie informelle, c'est ce qui se passe sur les marchés. Voilà. C'est les ventes de fruits, c'est les ventes de légumes, c'est les ventes de viande, tout. Ce sont des choses comme ça. Mais je dirais quand même, je pense maintenant, et d'autres gens le diront mieux que moi, je pense qu'il faut se référer aux travaux de l'économiste May Mwissi, c'est un économiste gabonais, donc il fait des bonnes analyses sur la société gabonaise. Effectivement, Très tôt, il y avait des systèmes de banques avec des cartes bancaires, par exemple. C'était des choses qu'on ne voyait pas forcément dans d'autres pays. Mm-hmm. Il y avait un pays qui était un peu similaire au Gabon. C'était la Côte d'Ivoire. En tout cas, Abidjan.
Tout à fait.
Il y avait beaucoup de correspondances entre les Ivoiriens et les Gabonais. Mais, par exemple, des gens qui venaient du Bénin ou qui venaient de Madagascar, quand ils arrivaient à Libreville, ils étaient sous le choc. Ouais.
Non, mais on voulait aller l'Eldorado pour l'Afrique
c'était
de l'Ouest.
Le Gabon.
C'est le Gabon.
C'était le Gabon.
C'était le Gabon. Ça. Plein de gens disaient, quand j'aurai fini mes études, j'irai au Gabon.
C'est vrai. Et d'ailleurs, on a beaucoup, effectivement, d'étrangers d'Afrique de l'Ouest. Moi-même, j'ai un peu de sang sénégalais. On a pas mal, effectivement, de gens qui viennent du Togo, du Sénégal, du Bénin, beaucoup du Bénin. Puis on a beaucoup de Libanais également, beaucoup de Camerounais, effectivement.
Alors, j'ai acheté aussi les échos du 4 septembre, parce que je voulais lire ce que la presse économique dit sur Brice Oly.
Brice Oly Nguema, on va y arriver.
Je vais y arriver. Donc, le titre, c'est Brice Nguema, l'homme qui a lâché les bons goûts pour prendre le Gabon. Déjà tout un titre.
Oui,
et l'homme qui a lâché quoi ?
Qui a lâché les bongos pour prendre le Gabon.
Ah, déjà, ça donne...
Ah oui.
Alors...
Tam-tam, quoi.
Déjà. Et il commence... Derek Perrot commence son article par « On n'est jamais mieux trahi que par les siens
». Ça ressemble à un film, ce qui se passe, effectivement. Ça ressemble un peu à certains... On pourrait faire un film de cinéma avec ce qui s'est passé.
Oui.
Maintenant, il faut faire attention. On a vu ici aussi, c'est pour ça d'ailleurs que les Gabonais, en tout cas, qui sont beaucoup de Gabonais, hein, je ne veux pas dire la majorité, pas 100% des Gabonais, mais la majorité des Gabonais, qu'ils soient au Gabon ou qu'ils soient dans les diasporas, parce qu'il y en a beaucoup en Europe et en Amérique du Nord, vous n'arriverez pas à voler la joie des Gabonais en disant, oui, Brice Oly Nguema est du Sérail, il a été dans le clan Bongo, il a des propriétés, etc.
C'est le cas.
Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui peut
avoir... Il a trois propriétés.
Tout à fait.
Acheté cash.
À Washington.
Dans le Maryland, très précis.
Ah, dans le Maryland.
C'est la banlieue de Washington. Acheté $1 milliard cash. Dans les années 2018.
Mais ce n'est pas, si vous voulez, ce qui fera que les gens vont changer d'avis. Car ce que les gens voulaient, c'était vraiment la fin d'une dynastie.
Oui.
C'était ça. C'est ça qu'il faut retenir. Je pense que les gens qui se focalisent ici sur le patrimoine et tout ça, non, sont à côté, qu'ils le fassent par devoir journalistique, ça, oui, c'est normal. Mais qu'ils essayent de dire oui, vous voyez, tous pourris, tous pareils et tout, c'est pas pareil. C'est pas
Alors,
pareil,
dans cet article, on parle d'une femme dont, qui semblerait tirer les manettes.
Ça, oui,
c'est Pascaline Bongo.
Oui, mais c'est...
Alors, j'aimerais que tu en parles pour expliquer le clan Bongo de l'intérieur. Parce que tu m'avais dit quelque chose lorsqu'on préparait l'émission ensemble. Tu m'avais dit le clan Bongo soudé, ça n'existe pas. Ça n'a jamais
non,
existé.
Mais ça n'existe nulle part, ça. Ça n'existe nulle part. C'était une famille, il y avait des dissensions, comme dans toutes les grandes familles, dans tous les pays, les grandes familles, les dynasties, il y a des dissensions. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Il faut relire ce que dit la presse sur le clan qui s'était formé avec Ali Bongo après le coup d'État, avec sa femme et avec leur fils Noureddine.
Laquelle, ses avocats ont porté plainte pour séquestration.
Oui, tout à fait.
En France. Parce qu'elle est franco-gabonaise.
Elle est franco-gabonaise et son père était un grand monsieur local des assurances et de l'immobilier.
Voilà.
Mais effectivement, ce clan-là ne s'entendait pas avec une autre partie du clan. Il y a plein de choses qui rentrent en cause. Il y a des raisons culturelles. Certains estimaient que Ali Bongo n'était pas représentatif suffisamment du clan Bongo, etc., etc. Et puis des choses qui remontent avant, à l'époque du père, même des choses qui remontent à l'époque de la mort de Renjambé. Voilà. Et Pascaline, dans tout ça, bon, bah, c'est pareil. Les médias ont suffisamment dit. Les procès qui planent sur elle,
oui.
Son rôle dans Delta Synergy, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Maintenant, attention, c'est pareil, les rumeurs restent des rumeurs, il faut les sourcer. Faut être sûr de ce qu'on avance. Les gens avancent des choses, mais c'est pas très clair pour le fait de dire elle est derrière.
Ça reste à voir.
Ça reste à voir.
Est-ce qu'il est vraiment le neveu des Bongo, le général ?
C'est pareil. Alors là, il y a plusieurs discours contradictoires. Il y en a qui disent que c'est un neveu d'affection, un neveu de cœur. Et d'autres qui disent que c'est un neveu dans le sens de sang. Je vais vous dire, par contre, au Gabon, neveu de cœur et neveu filial, ça se mélange un peu. On n'a pas ce genre de considération.
En Afrique, c'est pareil. En Afrique subsaharienne, c'est pareil. Quand vous adoptez un enfant,
c'est
le vôtre.
Voilà.
Exact.
Ça, la question ne se pose pas.
Voilà. Et d'où les problèmes d'héritage, parce que la filiation ne se fait pas uniquement par le sang
en
Afrique.
Tout à fait.
Elle se fait aussi par le cœur.
Donc,
excuse-moi de t'interrompre encore une fois.
Oui.
Pour te reposer une question à propos de la vie de Monsieur Gabon de tous les jours. Par exemple, est-ce que vous êtes emmerdé comme on est en France par la numérisation de tout, service public, de tout.
Alors c'est différent. Par exemple, le papier est encore très présent. Le papier est présent. Oui. Maintenant, beaucoup de choses se font par smartphone. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, pour beaucoup de transactions financières par smartphone. Beaucoup de choses se font avec des smartphones, avec des petites cartes, vous rechargez. Et c'est un outil de vie aussi. Donc,
Et la poste. Alors, est-ce que la poste fait passer le permis de conduire au Gabon ? J'aimerais savoir parce que
c'est le cas en France. Alors, par exemple, la poste, vous avez un grand centre à Libreville où vous allez récupérer votre courrier. Vous n'avez pas de système avec un facteur qui vient. Non, ça n'existe pas, ça.
D'accord.
C'est vraiment vous allez dans un centre avec une boîte qui est à votre nom.
Une boîte postale.
Une boîte postale. Et vous y allez, genre, une fois. Alors, ça dépend si vous pensez que vous avez beaucoup de courriers. Vous allez une fois par semaine. Il y en a qui vont une fois par mois.
Et les transports ? Les transports vers la province ?
Beaucoup de choses ont changé au niveau. Alors, moi, je précise que je ne suis pas retourné au Gabon depuis 2002, mais qu'effectivement, je garde des nouvelles régulièrement. Attention, je m'informe régulièrement. Au niveau des transports, alors, ce qui est bien, c'est que maintenant on a davantage de cars qui font des lignes comme Libreville-Lambaréné, par exemple, et ce sont des bus confortables, climatisés et pas trop chers, accessibles. Donc ça, mais
ce
sont des groupes
chemin de fer, pas trop.
Il y a le transgabonais, mais là justement la question c'est de lui donner. Je pense que ça va faire partie des prochaines questions du gouvernement de transition, c'est de redonner au transgabonais la place qu'il mérite justement dans le paysage gabonais, parce que c'est vrai que c'était un événement quand il a été inauguré.
Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qu'il a perdu de quel était son parcours au transgabonais ?
Il allait jusqu'à
jusqu'au Congo.
Oui.
Il allait jusqu'au Congo.
Ben oui.
Il partait du Gabon, il faisait jusqu'au.
Bien sûr, c'est pour ça que c'était un exploit.
C'est fantastique cette ligne.
Il partait du Gabon après au nord du Gabon, qu'est-ce que c'est ?
Non,
il partait de Libreville.
Il partait dans l'autre sens.
De Libreville. Il partait vers le Congo, vers l'est.
Vers l'est, d'accord. Voilà. D'accord, ok.
Et il acheminait aussi bien des denrées que des passagers.
Que les passagers.
Voilà, c'est pareil, ça fait partie
par
des choses.
Par manque de maintenance, ça s'est délité.
Oui.
Bah, comme les. Oui, les trains en France, hein.
Oui, mais là-bas, ça s'est délité rapidement.
Le climat ne fait pas beaucoup de cadeaux. Le climat équatorial
détériore assez vite.
Il faut bien comprendre hein, pour les infrastructures que une infrastructure neuve dans un pays équatorial, c'est pas la même chose qu'ici. Et c'est l'entretien, parce que souvent il y a des grandes inaugurations avec des infrastructures neuves, mais il faut revenir 10 ans après s'il y a pas d'entretien, c'est compliqué. Ça, c'est la problématique des pays tropicaux.
Mais c'est la problématique des chemins de fer aussi, c'est l'entretien qui coûte cher.
L'entretien coûte cher, mais là je ne parle pas que des chemins de fer, je parle même de l'ensemble des bâtiments publics, tout ça. Ça demande un entretien très compliqué et très coûteux du coup.
Bon, je cesse de t'importuner.
Questions importantes parce que les gens des fois ont une image abstraite de la vie dans des pays africains, et c'est quelque chose de très trouble. Ils n'arrivent pas vraiment, et quand ils arrivent, ils sont surpris. Des fois, il y en a qui disent mais c'est pas très différent d'ici sur bien des aspects. Donc c'est important de le rappeler, c'est très important.
Bien, donc on a répondu à ta question, François.
oui.
Parfait. Bien, on peut revenir au général.
Qui est président maintenant.
Exact. Il a été intronisé.
Hier,
voilà. Donc,
à midi et quelques heures locales.
Voilà, donc cérémonie que j'ai suivie par Internet.
Oui, 2h32.
Et la police a suivi. Bon, il n'y a pas eu de problème.
Non, aucun.
Non, il n'y a eu aucun problème.
Aucun.
Donc, alors, il dit, il a déclaré,
oui.
Il est temps de reprendre en main une gouvernance irresponsable.
Non, une gouvernance responsable. Ah, il est temps de reprendre en main une gouvernance irresponsable.
Et imprévisible.
Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Ça, pardon, j'avais mal compris.
C'est
pas très bien écrit, là.
Voilà, bon, c'est
mais,
des
échos. non, oui, bien sûr, oui, bah, c'est son constat, mais...
Donc, tu parlais de l'eau qui était revenue dans certains quartiers.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont revenues pour alléger...
J'attends des nouvelles. J'ai mon cousin qui m'informe quasiment chaque jour de chaque chose qui se passe. Donc,
D'accord.
Et puis même si on va sur Twitter et qu'on tape Gabon en allant dans l'onglet actualité récente,
mm-hmm.
on tombe toujours de surprise en surprise. Donc oui, je pense qu'on va encore avoir d'autres surprises. Bon là, je crois qu'il est question du rétablissement des bourses et du paiement des bourses en temps et en heure des étudiants gabonais, par exemple.
Et surtout le remboursement des frais de maladie.
Et, entre
ça
autres,
n'a l'air de rien, mais elles étaient suspendues
oui.
depuis très longtemps.
Et le paiement en temps et en heure de certaines retraites, de certaines pensions également. Donc a priori... les choses ont l'air d'aller assez vite, à voir.
Mais ce général, il s'était déjà illustré en s'occupant correctement du personnel militaire. Il avait restauré les casernes, le paiement de leurs soldes. C'est pour ça qu'ils lui sont fidèles.
Oui, ils semblent très aimés par les militaires, effectivement. Et ce qui était vraiment impressionnant hier au niveau de la cérémonie, c'était même à l'extérieur, presque une sorte de standing ovation.
Mmh.
Pour ce monsieur. Tout ce qu'on peut lui espérer, bon, bah, après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la vie d'une nation, il y aura plein de choses et tout à redire, mais tout ce qu'on peut lui espérer, c'est que, voilà, qu'il soit suffisamment soutenu, parce que je pense qu'il y a des gens qui rêveront de le faire tomber.
Alors, justement, il a rencontré l'opposition,
oui.
notamment celui qui a remporté les élections.
Cet après-midi.
Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire ?
Rien, je ne sais pas pour le moment. On a des photos qui circulent. Ils ont eu des échanges constructifs, je n'en sais pas plus.
Parce que cet homme...
Albert Ondoonsa.
Voilà. Qui a été élu.
Qui dit qu'il a été élu, mais encore une fois,
oui,
le problème...
Oui, mais il a été choisi par l'opposition
oui,
au dernier
à
moment, à la surprise générale.
Oui.
Déjà, quand on a appris ça, ça a été une bonne surprise pour ceux qui
il
sont...
Il a été élu, mais rafraîchis ma mémoire, là.
Par les élections, les dernières élections.
Les élections présidentielles.
Ah, présidentielles.
De samedi.
D'accord.
Pour lesquelles on a inversé les résultats, bourré les urnes et déclaré Ali Bongo vainqueur. Avec Internet coupé et les médias étrangers interdits. Donc, c'est eux, ils ont exigé le recomptage des voix.
D'accord, je comprends.
Et ils ont demandé à ce général d'aller au bout du processus et de compter les voix. Et ils se sont proclamés vainqueurs de l'élection présidentielle. Je veux dire, vu l'impérie d'Ali Bongo, je veux dire, n'importe qui, même une chèvre aurait gagné contre lui.
Heureuses sont les chèvres.
J'exagère, mais à peine.
Peut-être pas.
Non. Non, il a gagné l'élection. Donc la question, c'est...
Alors, il a gagné, mais le problème, encore une fois, c'est que le président, maintenant de transition, pense qu'il faut remettre les choses à plat, parce que, de toute façon, tout s'est tellement mal déroulé.
Voilà.
Avec l'absence d'observateurs internationaux,
tout
Internet
fait.
Coupé, les médias coupés, enfin non autorisés, et puis surtout des cas de violence. On a vu des gens prendre il y a eu des fraudes qui étaient flagrantes, des gens qui prennent des urnes avec les
machettes.
Les urnes.
Donc bon, ou qui les volent.
Oui.
On les voit carrément qu'ils les volent dans des endroits et tout. Donc,
les endroits qui votent mal.
Exactement. Donc, c'est ça qui est délicat. Quelle est la valeur d'une élection dans un système truqué ?
Voilà.
Où les dés sont pipés et où, grosso modo, on fait comprendre qu'en fait, on fait une élection pour montrer que tout va bien, au regard de la communauté internationale qui sont contentes. Mais qu'en fait, c'est pas une élection. C'est une tartufferie, c'est une mascarade, mais c'est pas... une élection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, moi je suis très impressionné par une sorte, François, c'est ça ?
Oui.
Disait quelque chose d'intéressant sur le comportement des médias européens et des médias français, qui, la main sur le cœur, condamne le
coup d'État.
Le coup d'État, condamne le putsch. Et on s'aperçoit que ces gens-là, et y compris nos intellectuels ici en France, aiment bien parler de démocratie, de liberté, mais chez eux, pas pour les autres. Pour les autres, ce qui compte,
c'est... Chez eux, ils ont le 49-3, voilà. Les Français, il faudrait pas...
Bon. Mais en tout cas, ils aiment bien...
Ils cassent trop les pieds avec la démocratie.
Ils aiment bien... Ça bien faire. Ils aiment bien quand même parler de démocratie ici et donner des leçons de morale aux autres. Mais ce qui est important pour l'Afrique, c'est la stabilité. Il faut que ça soit stable. Peu importe qu'une dynastie soit là 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, du moment que c'est stable. Et ouais. Voilà. Et là, pour le
Revolution coup, is bad for business. Hein.
Bon. Voilà. Mais là, c'est une drôle de révolution parce que je pense que certaines affaires vont continuer tout simplement. Je pense.
De palais, oui.
De toute façon, l'émission est tous les 15 jours. Mm-hmm. Donc, s'il y a des bouleversements, tu reviendras nous expliquer tout ceci sans problème.
Je vais être le monsieur Gabon, ça va être une position. Si on m'avait dit un jour que je serais monsieur Gabon à Radio Libertaire, j'aurais été surpris.
Alors, mais justement, tu vas être monsieur Gabon jusqu'au bout. Et on va, en forme de conclusion pour la musique, on va donner le dernier titre, Annie Flore.
C'est Annie Flore Batchelelis.
Et plutôt que de mettre le générique, elle va finir.
C'est une belle chose en fait.
Elle va conclure l'émission.
Je voudrais juste avant de conclure l'émission vous dire ces vers là, c'est d'un autre poète parce que les poètes et les artistes ont été très impliqués là-dedans. Ils ont leur part aussi dans tout ce qui se passe actuellement. C'est Itanda Kowe ou Cheryl Itanda. L'heure du retour triomphal, le chant de la liberté, de la réconciliation. Donc ça date de août 2016. Hein, attention. Mm-hmm. Demain, dès le chant de l'alternance, quand retentira le cor de la victoire, quand la liberté mettra fin à son errance, quand la confiance supplantera le désespoir, je mettrai fin à mon exil en terre de France et je l'honorerai de ma présence. Oui, j'irai goûter à la douceur du pays, au doux nectar de ma terre natale, je pardonnerai à ces gens que j'ai haïs, mon retour sera joyeux, il ne sera pas brutal. Je me nourrirai à la mamelle de la sainte terre, sainte par les larmes de mes frères en terre. De l'oppression, je sais qu'elle sera purifiée. Alors, j'irai volant par la Méditerranée pour enfin goûter à cet air frais de liberté qui devra souffler pour l'éternité. Je me tiendrai la main au cœur, chantant la concorde en cœur auprès des miens, à l'abri de la peur, le poing levé avec ardeur. Cheryl Itanda, recueil de poèmes SOS Motem, où il raconte son désir ardent de retrouver le Gabon, et je pense que de la même manière que des opposants comme Laurence Dong sont venus assister enfin à l'investiture hier et ont pu mettre le pied au Gabon, ce qu'ils n'avaient pas pu faire depuis longtemps, je pense qu'il fera partie de ces gens qui vont retourner eux aussi. Et donc là, on va finir effectivement en parler de cette chanson. C'est Afrique Mantois de Annie Flore Batchelelis. Certains disent qu'elle est un peu la Joanne Baez gabonaise.
Voilà. Merci Kam Dong et je vous dis dans 15 jours.
Et merci Mariama et merci François. Et merci aux auditeurs Yann, et aux auditrices qui nous écoutent. Merci beaucoup. Au revoir.
Pauji mumboti mati mede kimodo nyuru isaga neuji ikoru batu berini mumi bamba isaga bayiru buiru fue munundulio isaga nemu tua gumaronda irumbu no wende kangwale. Tu vas bien. Oh, yeah.
C'est chez toi que j'écris ma course. J'ai tout lu derrière ton épaule. Salut le montreur de grand ours. J'ai fait mon trou sur ton lopin. J'ai pris du poil et de la graine qui me servent à faire le lapin de Garenne. Je suis client chez Jean Richepin. J'ai bu tes mots à la fontaine, appris le parler paysan, compris le plaisir, le blasphème, la peau, la sueur et le sang, que j'avais plus de corps que d'âme, qu'il fallait, comme un turlupin, attraper son couteau à pain par la lame. Je suis client chez Jean Richepin. J'ai truandé tes mots fougueux, j'ai appris à écrire debout, fauché cent fois le chant des gueux qui ne joignent pas les deux bouts, chanter qu'on essaie de la tourbe, que Dieu c'est du perlimpinpin, que croire à un autre jaspin était fourbe. Je suis client chez Jean Richepin. Mon arrière-grand-père de chevet, le grand folio que je butine, quand je sais pas bien où je vais, le raccourci où je piétine. Salut mon engreneur de source, salut mon arrière-grand-copain, qui me tient lieu de calepin pour mes courses. Je suis client chez Jean Richepin.
De flairer la mort partout, ça frappe mon sens olfactif. Ça me fiche des nausées dans le cou et des puanteurs dans le pif. Car ça chlingue et ça pue, ça se sent la charogne, ça se sent qu'on zigouille et qu'on tue et qu'on cogne. Mais le monde enrhumé assiste à la séance, se bouche les naseaux et perd son premier sens. De zioter la mort partout, ça frappe mon sens oculaire. Ça me transforme en hibou aux pupilles hospitalières. Car ça se mate et ça se lorgne et ça se voit à la charogne. Ça se voit qu'on zigouille et qu'on tue et qu'on cogne.